Comment ?
PMA ! Tout de suite ! Maintenant ! Ça ne se discute pas ! Égalité des droits ! Et PMA ! Tout de suite ! Maintenant ! Ça ne se discute pas !
Jean-Louis Touraine, quel est votre regard rétrospectif sur le projet de loi qui vient d'être adopté le 29 juin 2021 ? Et dont vous êtes l'un des rapporteurs, à savoir le projet de loi sur la bioéthique, laquelle ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
C'est une satisfaction d'arriver enfin à ce que la loi puisse être définitivement votée. Alors la partie la plus emblématique, c'est bien sûr la PMA pour toutes. Mais il y a beaucoup d'autres articles et c'est la raison pour laquelle il a fallu effectivement qu'il y ait une réflexion prolongée à l'Assemblée comme au Sénat. C'est un cheminement rationnel, avec infiniment de respect pour tous les points de vue. Et en définitive, c'est un grand texte de liberté, mais aussi de non-discrimination et de limitation des interdits qui avaient été instaurés lors des premières lois de bioéthique. C'est en 94, lors de la première loi de bioéthique, qu'ont été mis en place des interdits. Avant 1994, toutes ces choses étaient autorisées, bien sûr. Non seulement les différentes variétés de PMA, mais aussi de GPA, mais aussi toutes les variétés de transplantation d'organes et de cellules souches. Et actuellement, eh bien, on peut lever certains interdits en ayant des conditions d'encadrement qui permettent de rassurer tout le monde.
Nous allons tout faire pour que cette loi ne passe pas. Rien n'est perdu parce que aujourd'hui, vous avez montré que vous
on l'aime beaucoup.
L'amour d'un père, ce n'est pas secondaire.
L'amour d'un père, ce n'est pas secondaire.
L'amour d'un père,
ce n'est pas secondaire.
Allez plus fort, Nicole Pélopé, dans vos accords.
Pour la question de la PMA, je voudrais vraiment insister sur le fait que les enfants aient deux mères, qu'ils aient un père et une mère, ou qu'ils aient qu'une seule mère, quand ils sont nés de PMA, dans tous les cas, il a été démontré que leur parcours a toutes les chances de pouvoir se développer favorablement à tous égards. Nous en sommes certains parce que de très nombreuses études ont été faites sur des enfants suivis jusqu'à l'âge de plus de 25 ans dans de nombreux pays du monde. Et donc nous savons que contrairement à ce que quelques traditionalistes indiquent, le fait de naître sans père ne représente pas un handicap insurmontable. Il y a la possibilité pour les enfants qui sont nés avec un tiers donneur, de pouvoir accéder à 18 ans à leurs origines, c'est-à-dire d'avoir des informations sur celui qui a donné les gamètes. Et ceci est important parce qu'il y avait une souffrance. Donc ce progrès va être introduit, et je crois qu'il faut nous féliciter de cela. La loi, d'ailleurs, va aussi introduire une chose d'une nature un peu différente, mais qui est importante pour les femmes. Les femmes qui veulent conserver leurs ovocytes pourront maintenant les garder pour pouvoir procréer un peu plus tard. Vous savez, une femme qui a 35 ans, qui n'est pas en couple stable, mais qui voudrait bien avoir des enfants, sait que l'horloge biologique va être dure pour elle. Parce qu'à 40 ans, elle a des risques de ne plus être féconde. Et c'est peut-être à cet âge-là qu'elle va rencontrer son prince charmant, avec qui elle veut fonder une famille. Eh bien, si elle a gardé ses ovocytes à 35 ans, eh bien, à 39 ou 40 ans, elle pourra bénéficier de ses ovocytes qui sont en bon état, qui ne sont pas encore trop âgés, pour pouvoir contribuer à la formation d'un embryon avec son compagnon.
Nous sommes des soignants. Nous rétablissons la santé et les capacités de nos patients quand elles sont amoindries. Nous refusons d'être des techniciens du vivant au service de personnes en parfaite santé qui veulent obtenir ce que la biologie ne leur permet pas d'obtenir. Cela n'a jamais été notre mission. Ce serait une régression et une trahison de notre serment. Cette loi dénature la PMA elle-même. D'un soin, elle devient un droit.
Jean-Louis Touraine, vous n'êtes pas seulement député de Lyon et rapporteur du projet de loi, mais vous êtes aussi médecin. Que répondez-vous à vos confrères qui vous opposent que la médecine n'a pas vocation à résoudre les problèmes sociaux d'inégalité, et en l'occurrence la souffrance des femmes en désir de maternité ?
Je réponds que c'est une erreur de croire que la médecine ne devrait s'occuper que de traiter des maladies déjà avérées. Déjà depuis longtemps on sait, et la France a d'ailleurs à cet égard un petit retard à combler, que la médecine doit s'occuper de la prévention. Accompagner les malades est une chose importante. Le médecin, en définitive, doit contribuer à la santé de ses contemporains. Or, la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Et donc, le médecin accompagne les personnes, quelles qu'elles soient, bien portantes ou malades, quand elles veulent maintenir ou retrouver cet état de bien-être physique, mental et social. Et je crois qu'on peut se féliciter de cela. D'ailleurs, ça fait déjà longtemps que la plupart des médecins acceptent de s'engager là-dedans. La preuve en est qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins font des vaccinations. La vaccination, c'est pas un traitement curatif.
Les opposants à la PMA contestent aussi le fait que les procréations seront prises en charge par l'assurance maladie. Pour aller dans le sens des critiques, est-ce que vous ne craignez pas que ça grève un peu plus le trou de la sécu ?
Alors, l'assurance maladie, malheureusement, s'appelle ainsi d'une dénomination qui n'est pas exacte. En vérité, et depuis très longtemps, après sa création en 1945, très vite, elle s'est occupée d'être une assurance santé et non pas une assurance maladie. Eh bien, une assurance santé, comme la sécurité sociale, cette assurance, depuis très longtemps, accompagne des personnes en dehors des traitements curatifs et de façon impliquant une prise en charge totale. Je vous parle des vaccins, je vous parle aussi de l'IVG, je vous parle de beaucoup d'actes de prévention, d'accompagnement pour maintenir le bien-être physique de certaines personnes, le suivi de malades cancéreux et la prévention des récidives par différents moyens. Eh bien, tout ceci représente une action qui va impliquer de façon tout à fait naturelle aussi la prise en charge de la PMA pour toutes. Par ailleurs, la PMA qui se fait aujourd'hui à l'étranger, par exemple, en Belgique, en Espagne ou ailleurs, pour des femmes en couple, a une partie de son parcours qui est déjà pris en charge parce que les examens préparatoires sont pris en charge. Quand la personne revient de Belgique, par exemple, avec son enfant dans les bras, évidemment, les soins sont ensuite pris en charge parce que social. Donc, on voit bien que il n'y aura pas une grande différence entre ce qui est déjà pris en charge par la sécurité sociale et puis ce qui va être ajouté par quelques femmes en couple ou femmes seules qui solliciteront en France un parcours complet de PMA et non plus seulement une partie de ce parcours en France et une partie à l'étranger.
Pourquoi s'être arrêté à la PMA, tout simplement, et n'être pas allé plus loin, à savoir vers l'autorisation de la gestation pour autrui, autrement dit la GPA?
Alors, parce que par esprit de système, il a été d'emblée dit que cette question ne serait pas abordée. C'est une question très différente. C'est une question qui, d'ailleurs, est dans l'humanité depuis l'aube des temps. Je vous rappelle qu'il y a deux cas dans la Bible de GPA pratiqués. Donc, vous voyez, ça existait avant les techniques médicales modernes. Et ces GPA qui, d'une façon ou d'une autre, ont toujours occupé l'esprit humain, se heurtent aujourd'hui à une dérive qui a été vers une exploitation commerciale intensive, parfois de femmes dans des pays pauvres, qui trouvent ainsi les moyens de gagner des ressources. Et cette forme de néo-esclavagisme apparaît regrettable. Mais à côté de ces GPA, que beaucoup dénoncent, et je crois qu'on peut même presque dire qu'on est unanime à les dénoncer, il y a des GPA qu'on appelle éthiques ou altruistes. Par exemple, une sœur qui veut aider sa sœur qui n'a pas d'utérus à pouvoir avoir un enfant, et ceci est plutôt un acte de générosité, d'altruisme, qui mériterait d'être salué, encouragé, comme on le fait d'ailleurs pour féliciter les donneurs de reins, par exemple, qui donnent un rein à leur frère ou à leur sœur pour les aider à guérir d'une insuffisance rénale. Eh bien, vous voyez bien qu'en réalité, il y a des GPA et que cette question est suffisamment compliquée pour mériter une analyse en soi qui se fera dans le futur. Nos successeurs s'en appareront et décideront quel GPA mérite d'être accepté dans notre pays et lesquels, probablement les GPA commerciales, méritent d'être sévèrement interdits. C'est d'ailleurs quand ceci sera résolu qu'on pourra être plus efficace pour contrôler l'absence de GPA commercial, parce que quand tout est interdit, vous le savez, la nature humaine fait que les gens utilisent des moyens détournés pour quand même accéder. Vous le savez, le monde contient un nombre important de pays qui acceptent les GPA, les uns les acceptant de toutes les façons, les autres seulement dans ces conditions où elles sont éthiques. Il y a quelques pays comme la France qui interdisent tout, mais ils sont minoritaires et cette situation sera difficile au niveau mondial à maintenir définitivement.
PMA pour tous, PMA pour tous.
Les partisans de la généralisation de la PMA auraient souhaité non pas une PMA pour toutes, mais une PMA pour tous. Vous voyez la nuance.
Je suis de ces députés qui souhaitaient que la PMA soit offerte à tous, c'est-à-dire que ce soit les femmes seules, les femmes en couple, mais aussi les personnes transgenres. Nous avons voté en ce sens, nous n'avons pas été majoritaires. Je crois que c'est parce que les idées n'ont pas encore suffisamment progressé. Ceux-ci aujourd'hui disent qu'ils sont, eux, encore victimes de discrimination. Ils se sentent un petit peu comme l'étaient les homosexuels il y a un demi-siècle, qui n'avaient pas les mêmes droits que les hétérosexuels. Et aujourd'hui, les personnes transgenres se trouvent un peu confinées dans cette marginalité qui les fait souffrir. Et donc, c'est un des progrès qui sera introduit. De même qu'il y aura d'autres choses pour compléter cette loi. Par exemple, ce qu'on appelle la PMA post-mortem, que nous encourageait beaucoup à prendre le Conseil d'État, le comité d'éthique, etc. Parce qu'en définitive, ça fait sens dès lors qu'on dit que les femmes seules ont le droit de procréer. Pourquoi les veuves n'auraient pas le droit de prolonger le projet parental qu'elles ont développé avec leur défunt mari? Et donc, c'est sûrement une chose que dans les années prochaines, on verra se compléter parmi les députés et dans certains segments de la société où il y a encore des visions un peu traditionnalistes sur ce sujet-là.
70, le deuxième était le 70.